sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous. Dans moins de 5 minutes, édition spéciale Sport Rama, édition interactive avec Nicolas Pinault. Mais tout d'abord, l'actualité. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'offensive de l'armée congolaise contre les FDLR est sur le point de commencer. C'est ce qu'affirme la mission onusienne en RDC, la MONUSCO, lors d'une conférence de presse à Goma. Les rebelles hutus rwandais avaient jusqu'au 2 janvier pour désarmer. Ils encourent désormais un désarmement de force. Lutte contre Boko Haram, le Nigeria ne peut plus agir seul, estime l'envoyé spécial de l'ONU pour la région, cité par la FPI, Routse Gebrselassie, souligne que le Sahel est aussi sous la menace des islamistes nigériens et appelle donc le Nigeria à être mieux disposé vis-à-vis de la force militaire régionale créée fin 2014 par 6 pays de la région. À Nairobi, les rebelles de l'ex-coalition Seleka et les miliciens anti-Balaka sont parvenus à un accord de cessez-le-feu, de cessation des hostilités et de DDE, désarmement, démobilisation et réinsertion à l'issue des pourparlers auxquels les autorités de Bangui n'ont pas été associées. Félicie Passis Zembrou a joint Mustapha Sabon, le porte-parole de l'ex-Seleka dans la capitale kényane.
Dans la deuxième phase, je pense que le gouvernement et puis les partis politiques, la société civile seront impliqués. Donc il faut que ce soit un processus inclusif. Sinon, nous allons tomber toujours dans l'éternel recommencement. Donc ce n'est pas le but. Si vous voyez bien, nous avons passé plus de 2 mois ici à Nairobi, au Kenya, en quête d'une paix durable pour amener d'abord la sécurité, et une sécurité durable également, pour pouvoir amorcer maintenant le processus démocratique tant souhaité par le peuple centrafricain.
Sabon Mustapha, cet accord va entrer dans le processus du forum inclusif qui se tiendra à Bangui. Ça veut dire que vous serez présent à Bangui?
Mais nous avons dit en temps et lieu, d'ailleurs même le G8 qui représente la communauté internationale à Bangui était présent lors du congrès de Kagabandoro. Nous l'avons bien dit clairement et même sur les ondes. Nous n'allons plus jouer maintenant à la politique des chaises vides. Nous allons bel et bien prendre part au forum de Bangui. Raison pour laquelle nous avons mis une coordination politique en place. Mais malheureusement, ce qui est en train de se dessiner, c'est comme si c'est un forum exclusif qui est en train de se dessiner, malheureusement. Alors, si nous avons quitté, nous avons décidé de quitter notre centre d'opération, quitter la République centrafricaine, et venir jusqu'ici à Nairobi, c'est pour chercher la paix. Oui. Donc cette paix, je pense que nous sommes déterminés. Nous demandons à la majorité silencieuse africaine de nous accompagner pour ramener enfin cette paix tant souhaitée par le peuple centrafricain.
Mustapha Sabon, porte-parole de l'ex-Seleka, joint à Nairobi. Attaque contre l'école américaine de Tripoli en Libye. D'après l'AFP, la grenade lancée par un inconnu n'a pas explosé, mais l'établissement a tout de même été évacué.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La FNUL, la force des Nations Unies dans le sud du Liban, a confirmé ce mercredi la mort d'un casque bleu dans des circonstances qui n'ont pas été précisées. Un drame qui survient après un nouveau regain de tension entre Israël et le Hezbollah qui a attaqué un convoi de Sahal à la frontière libanaise. Jacques Aristide.
Un assaut mené dans la région contestée des fermes de Shebaa. L'État hébreu affirme que 2 de ses soldats ont été tués et au moins 7 blessés dans cette attaque au missile revendiquée par le Hezbollah et considérée comme étant la plus grave perpétrée par le mouvement chiite libanais depuis la guerre de 34 jours il y a un peu plus de 8 ans. Le Hezbollah, qui soutient le régime syrien de Bachar al-Assad, indique avoir vengé la mort de 6 de ses membres et d'un général iranien tué d'après le groupe dans un raid aérien israélien en Syrie il y a environ 10 jours. Tôt ce mercredi, l'armée israélienne avait annoncé que son aviation avait bombardé 2 positions de l'armée syrienne en riposte à des tirs de roquettes la veille contre le plateau du Golan. Le ministre israélien de la Défense, Moshe Ya'alon, a déclaré que son pays ne tolérerait aucun tir en direction du territoire israélien.
En Afghanistan, le Parlement rejette la majorité des 19 personnalités proposées par le président Ashraf Ghani pour le nouveau cabinet ministériel. 4 mois après l'accord pour le partage du pouvoir de M. Ghani et de son rival Abdullah Abdullah, le pays reste sans gouvernement. Il ira un nouveau représentant aux Nations Unies, Ghulam Ali Khashro, actuellement ambassadeur en Suisse. Il a été nommé aujourd'hui, les États-Unis ayant refusé d'accorder le visa à un autre diplomate choisi pour le poste depuis près de 9 mois. Vous écoutez VOA Afrique dans un instant. Édition spéciale Sportrama, ce sera avec Nicolas Pinault.
Sportrama. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à la cantine, bienvenue à Mbolo.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama spéciale Coupe d'Afrique des Nations sur VOA Afrique. Bienvenue à tous, comme tous les lundis soirs dans notre émission, tous les mardis, tous les mercredis, les analyses, les résultats et vos commentaires, chers auditeurs. Vous pouvez évidemment nous écrire sur notre page Facebook ou composer le 001 202 619 31 40. 001 202 619 31 40. On a Georges, guinéen évidemment, qui est en transe avec les matchs actuellement en cours. Et oui messieurs, car les matchs sont en cours, les matchs du groupe D. Pour en parler, nos deux consultants sont en ligne. On va d'abord partir évidemment à Libreville, retrouver Jules Valentin Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et il revient évidemment avec ses valises, hein, toutes fraîches évidemment de Guinée équatoriale, c'est Salif Kabore. Bonsoir Salif.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous et à tous, et bienvenue à Ouagadougou.
Ouais, Salif qui a appris l'espagnol durant son séjour évidemment en Guinée équatoriale. Voilà, un grand plaisir de vous retrouver dans Sporama. On va parler des matchs du groupe D, on vous donne le scénario avant le début des matchs. Tout le monde est à deux points, tout le monde a la même différence de but, mais actuellement tout est chamboulé puisque la Guinée mène 1-0 grâce à un but sur pénalty de Kevin Constant. Le Malien Seydou Keïta a raté lui aussi un pénalty, mais pour le moment c'est bien la Guinée qui est qualifiée. Et dans l'autre rencontre entre les poids lourds africains, c'est la Côte d'Ivoire qui mène 1-0. Gradel a inscrit son second but de la compétition. Donc pour le moment, les Aigles du Mali et les Lions Indomptables qui rentrent à la maison. Mais encore 45 minutes de jeu, tout pour changer. Le coup d'envoi vient d'être donné dans ces deux rencontres. On va prendre un premier auditeur en ligne pour parler du match du Cameroun. Il s'agit de Reynaldo, il est au Bénin. Bonsoir.
Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur.
Alors Reynaldo, évidemment, pour le moment, les Camerounais qui rentrent à la maison, même s'ils n'ont pas démérité sur cette première période.
Oui, bien sûr. Moi, je vois que le Cameroun est en train de nous montrer quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire dans les années écoulées. Ça dit sortir des matchs de poule. Vraiment, je crois que les Camerounais jouent très, 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 très bas aujourd'hui. Et je ne vois pas le Cameroun revenir. Je ne vois pas le Cameroun revenir.
Mais
je
vois le Cameroun déjà de la compétition. Reynaldo, qu'est-ce que vous avez pensé des critiques directes contre le sélectionneur Volker Finke depuis quelques jours par la presse camerounaise? Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû partir après le gros échec en Coupe du Monde?
Ouais, bien sûr. Il aurait parti depuis, parce que je vois que ce monsieur n'est pas à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Vraiment, Volker Finke, non, je ne vois pas. Il devrait partir. Je vois que le Cameroun joue très bas, très, très bas.
Eh ben,
les Ivoiriens sont largement au-dessus.
On va voir ça. Il reste 44 minutes de jeu. Merci beaucoup, Reynaldo, de nous avoir appelé. On va poser la question à Jules Valentango. Est-ce que, selon vous, ces Lions d'Indomptables jouent trop bas?
Oui, effectivement, il joue trop bas parce qu'il peut...
Jules Valentin, je vous coupe. Jules Valentin, égalisation des Maliens. Modibo Maïga qui vient d'égaliser pour le Mali. Tout est relancé, évidemment, puisque pour le moment, le Mali qui vient d'égaliser, les Aigles du Mali qui sont revenus au score. Un but partout grâce à Modibo Maïga. Tout est relancé dans ce groupe. Pardon de vous avoir interrompu, Jules Valentin. Jules Valentin, vous disiez évidemment que les Aigles, que les Lions Indomptables du Cameroun jouaient trop bas sur ce match, hein.
Oui, et ils ne peuvent pas jouer tellement autrement. Le dispositif tactique qui a été mis en face d'eux est un bloc qui a un bloc remonté où on a mis des joueurs à l'origine défenseurs pratiquement au milieu de terrain pour retirer les Camerounais dans leur camp. Par ailleurs, au milieu de terrain, justement, les Ivoiriens ont pris l'ascendant parce que les Camerounais n'ont pas de milieu de terrain animateur. Et ça, on l'avait dénoncé pendant toute la campagne qui était victorieuse, mais où on voyait cette lacune. Donc, c'est une équipe qui a du mal à revenir au score. Si elle est menée, et elle a vraiment du mal à revenir au score, il faudra des coups d'éclat comme celui de Sali Elgar à la dernière minute là pour pouvoir vraiment revenir au score. Mais dans le jeu, la confection du jeu, je n'en doutais pas, l'avantage devrait être aux Ivoiriens.
Et oui, on est évidemment toujours sur VOA Afrique. On rappelle, pour le moment, le scénario est relancé puisque la Côte d'Ivoire terminerait première de ce groupe si le score en reste là, 1-0 pour les Ivoiriens. Mais match nul, évidemment, dans l'autre rencontre entre les Maliens et les Guinéens. Il faudrait alors procéder à un tirage au sort. Finalement, scénario incroyable. On va prendre en ligne un auditeur de Conakry, Lamine Lalakaba. Bonsoir.
Bonsoir, messieurs, vous allez bien?
Eh ben, très très bien. Alors j'imagine pour le moment déçu, là, pour le moment, l'égalisation des Maliens. Quel est le sentiment à Conakry?
Oui, tout à fait. Nous sommes fiers, c'est-à-dire nous sommes contents ce soir en Guinée-Conakry. Mais tout à fait, le match n'est pas encore terminé. Et nous ne sommes pas désespérés d'abord. Jusqu'à la fin du match, nous les Guinéens, nous sommes fiers, comment dire, les victoires ce soir contre le Pape. À l'équipe malienne. Je voulais te dire, on va gagner et on va qualifier ce soir.
Eh ben, on croise les doigts du côté du Sili National. On rappelle que c'est Kevin Constant qui a inscrit le seul but guinéen pour le moment de la partie. On va aller de l'autre côté chez les adversaires. On va aller chez les Maliens à Bamako. Nous allons prendre en ligne Salif Diakité. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique, alors, particulièrement ceux de Bamako.
Alors Salif, évidemment, j'imagine que cette égalisation de Modibo Maïga vous soulage. Hein.
Ah oui, c'est un soulagement après quand même une première 45 minutes piètre de la part des aigles du Mali. Ils entament très bien cette fois-ci la deuxième période. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée et pourquoi pas marquer un deuxième but pour que le Mali puisse... obtenir son ticket pour les quarts de finale. Même si c'est vrai que Seydou Keïta a raté un pénalty qui aurait dû trouver l'égalisation, il a tout juste pris sa responsabilité. On ne peut pas l'en vouloir à cause de ça. Et la deuxième mi-temps vient de commencer avec l'égalisation du côté des Maliens. Et j'espère que le technicien franco-polonais Henri Kasperzak a bien balganisé sa troupe pour que le Mali puisse remporter les trois points de la victoire.
Et ben merci beaucoup Salif de nous avoir appelé évidemment depuis Bamako. On va poser la question à notre ami l'autre Salif, Salif Kabore, qui est au Burkina Faso. Salif, finalement, et encore les matchs ne sont pas terminés, mais pour le moment, le suspense reste total dans ce groupe. Hein.
Oui, le suspense reste total dans le groupe, mais il faut dire quand même que Nicolas pourrait donc dire que la logique serait respectée. Vous voyez le Mali qui vient d'égaliser. On pourrait penser tout de suite que le Mali prendrait le dessus donc en ce sera formation guinéenne, parce que tactiquement, entre la Guinée et le Mali, en fait, ce que ça vaut, le Mali donc est plus expérimenté. Le Mali a plus donc de tactique et de légende pour pouvoir prendre vous voyez, le pied de cette rencontre par rapport donc à la formation du Sud National de Guinée. Et vous voyez donc la Côte d'Ivoire aussi qui est actuellement opposée à l'équipe camerounaise. Je crois que n'eût été la maladresse de l'équipe camerounaise de transférer actuellement de un but partout. Je ne pense véritablement pas qu'au regard de la forme actuelle de l'équipe ivoirienne que cette équipe puisse tenir véritablement face donc aux Camerounais. En tous les cas, on le verra, mais je crois que objectivement le Mali et le Cameroun devraient s'en sortir.
Eh bien écoutez, on va suivre ça, on va rappeler les scores ce soir dans ce groupe D. Pour le moment, évidemment, la Côte d'Ivoire qualifiée première du groupe, elle continue pour le moment de battre 1-0 le Cameroun, un but de Gradel très très important si les choses en restaient là. Et dans l'autre rencontre, évidemment, pour le moment ça bouge puisque les Maliens, au retour de la mi-temps, les Maliens étaient menés 1-0, mais grâce à Modibo Maïga, les Maliens ont évidemment recollé au score. Pour le moment, la Côte d'Ivoire est qualifiée et il y aura un tirage au sort demain matin entre la Guinée et le Mali. Vous êtes toujours sur VOA Afrique. C'est toujours Sporama consacré évidemment à la Coupe d'Afrique des Nations. On suit toujours ces rencontres du groupe D, mais on va se projeter, on va parler évidemment de ce rencontre. On nous signale qu'on a un autre auditeur de Conakry que nous allons prendre tout de suite. Bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Mais bien, vous avez un peu la voix éteinte là. Est-ce que c'est l'égalisation du Mali qui vous a mis un coup au moral?
Bien sûr.
Et est-ce que vous...
C'est tellement choquant.
Vous pensez que le Sili va pouvoir... Vous pensez que le Sili va avoir les ressources morales pour se qualifier?
Oui, probable.
Et comment vous vivez le match à Conakry là actuellement? Vous êtes chez vous? Vous êtes dans un bar? Où est-ce que vous êtes?
Je suis dans un vidéoclub.
D'accord.
Mais comme on est en train de parler, là, je me suis déplacé un peu.
Eh ben, c'est très gentil. En tout cas, c'est.
Vous entendre, quoi.
Eh ben, c'est très gentil. Merci beaucoup. On espère que vous aurez le sourire à la fin du match. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Conakry, la capitale malienne. Je le disais, les quarts de finale qui arrivent. Et le quart de finale dont tout le monde parle des deux côtés du fleuve Congo, c'est évidemment le quart de finale entre la RDC et le Congo. On va prendre tout de suite un auditeur qui nous appelle à Brazzaville. Nento Martkoudi, bonsoir.
Bonsoir monsieur, bonsoir les gens de la Voix de l'Amérique.
Voilà, bonsoir. Alors
qu'est-ce que... Au Brazzaville, c'est vraiment chaud, c'est très chaud ici. Parce que nous avons un duel, hein, le samedi, Congo Brazzaville, RDC, les deux Congos qui vont s'affronter historiquement parlant, c'est compliqué. Mais bon, Congolais de Brazzaville, on casse nous. Les Diables Rouges, c'est évidemment. Mais bon, le grâce pour nous, c'est que parmi ces deux Congos, on aura un Congo une finale et pourquoi pas la finale.
Et qu'est-ce que vous pensez de Claude Leroy qui a transformé cette équipe depuis un an? On le rappelle, le Congo qui n'avait pas participé à la CAN depuis la CAN de 2000.
Depuis 15 ans pratiquement, oui.
Qu'est-ce que vous pensez de Claude Leroy?
Il faut retenir que c'est un grand sélectionneur, il faut le retenir parce que depuis 15 ans, on n'a pas participé à peu importe les phases, hein, la CAN. C'est un grand monsieur, nous le remercions vraiment toutes ces victoires-là, depuis le début. Nous le devons à Claude Leroy. Vraiment qu'il continue de faire ce qu'il peut faire. Pourquoi pas nous faire rêver et remporter la CAN. Grande serait notre joie, vraiment. Tout le peuple congolais, vraiment, en ébullition. Dans Brazzaville, à l'intérieur du pays, vraiment, c'est du chaud chez nous aussi.
Eh ben, on croise les doigts. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie. On va évidemment saluer tous les clubs de foot, tous les amateurs de foot qui suivent VOA à Brazzaville, au Congo. Et on va parler maintenant avec Jules Valentango. Et Jules, justement, hein, ce quart de finale inédit, les équipes se sont déjà rencontrées dans l'histoire de la CAN, mais jamais en quart de finale. Qu'est-ce que vous pensez, finalement, de cette rencontre entre le Congo et le Congo?
Oui, on peut dire que dans les années 70, on aurait donné l'avantage à la RDC, c'est de l'époque, les aïeux de l'époque, mais là, actuellement, le Congo-Brazzaville est une équipe déjà mise en place depuis près de 3 ans et que à laquelle le roi a apporté une philosophie de jeu et une décontraction vraiment inimitable. C'est une équipe cynique qui fait conserver le ballon, l'utiliser et remonter par des contres extrêmement rapides, et énerver l'adversaire et finalement venir à bout de lui. Pour des joueurs de cet âge-là qui sont très jeunes, c'est vraiment très étonnant. Donc en face, la RDC est plutôt une équipe en construction où il y a plus d'individualité que réellement une cohésion. C'est une véritable sélection dont il faudrait savoir si cette sélection se mettra au niveau de l'enjeu. Mais sinon, au niveau du jeu, je pense que le Congo Brazzaville va un peu avec les avantages.
Allez, VO Afrique, la parole aux auditeurs. On va encore à Conakry retrouver un supporter guinéen. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Vous allez bien?
Ben, très très bien et mieux que la Guinée, malheureusement, cette égalisation. Qu'est-ce que vous en pensez, l'égalisation des Maliens en seconde période?
Oui, nous sommes à la deuxième explication en Guinée-Conakry, mais nous ne sommes pas désespérés d'abord. Toujours, nous sommes motivés et nous sommes prêts. C'est-à-dire, nous sommes pleins à supporter le Sili National parce que d'ici, le football, c'est un grand. Nous ne sommes pas désespérés. Pendant la fin du match, nous allons augmenter notre but.
Et
alors que nous sommes là toujours à supporter, l'espoir est là toujours d'abord.
Et qu'est-ce que vous pensez de la possibilité d'avoir un tirage au sort, justement, si jamais le score en restait là, il y aurait un tirage au sort entre le Mali et la Guinée demain matin. Qu'est-ce que vous pensez de la possibilité de se qualifier à travers un tirage au sort?
Vous dites?
Qu'est-ce que vous pensez? Il va peut-être y avoir un tirage au sort si les scores en restent là entre le Mali et la Guinée. Il y aura tirage au sort pour la qualification pour les quarts de finale. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité?
Oh, vraiment, si nous allons partir comme ça, vraiment, bon, quand même, nous allons avancer.
Très très bien, bah, merci beaucoup de nous avoir appelé évidemment depuis la Guinée-Conakry. On rappelle le score pour le moment, 1-0 pour la Côte d'Ivoire face au Cameroun, Côte d'Ivoire qualifiée, et 1 partout entre la Guinée et le Mali. Et pour le moment, il y aurait un tirage au sort demain matin entre la Guinée et le Mali. On va prendre la direction de la Guinée équatoriale, on va retrouver l'envoyé spécial de la VOA Afrique, Abdou Chakour Aboud, bonsoir.
Bonsoir Nico, comment ça va?
Très très bien, alors vous êtes à Mongomo, évidemment, on suit attentivement pour le moment cette rencontre Mali-Guinée. Hein.
Oui, c'est très intéressant parce que c'est un match qui est très dur. Mali vient d'égaliser tout à l'heure, alors on est en train de voir comment ça va se passer.
Oui, c'est Modibo Maïga, évidemment, qui avait inscrit le but malien pour l'égalisation. Chakour, actuellement, dans ce stade de Mongomo, on a beaucoup parlé de la qualité de la pelouse qui laissait à désirer, évidemment. Qu'est-ce que vous constatez là-bas? Est-ce que cette pelouse est difficile, justement?
Oui, c'est difficile parce que chaque fois, ils sont en repos, il faut réparer. Il y a des réparations qui se passent pendant le mi-temps et on voit que le terrain n'est pas tellement bien.
Merci beaucoup. Et Chakour, maintenant, après 10 jours dans la compétition, évidemment, on le rappelle, le pays organisateur qui va affronter la Tunisie, ce sera samedi à Bata pour le quart de finale. Vous sentez la ferveur pour le Nzalang national?
Ici, tout le monde parle de ça, mais ça va être très dur. J'ai parlé avec le coach de Tunisie, il a dit que effectivement le grand problème c'est que l'équipe nationale sera derrière la part derrière eux, ça va être difficile. Est-ce qu'il est en train de avoir des techniques qui sont bien? Alors il faut qu'il se prépare bien pour ça. Alors on ne sait pas vraiment, mais on va voir parce que la Guinée équatoriale ici ces derniers temps ils ont bien joué.
Et oui, Becker, hein, le sélectionneur qui a réussi une belle performance. Merci beaucoup, hein, Chakour. On va évidemment vous retrouver encore pendant 10 jours en Guinée équatoriale pour suivre cette Coupe d'Afrique des Nations pour VO Afrique. Sadif Kaboré, on revient évidemment sur les quarts de finale. On parlait avec Chakour de ce match Guinée équatoriale Tunisie. Léger avantage à la Tunisie, évidemment, qui a montré de belles choses, notamment lors du dernier match. Mais on ne sait-on jamais, hein, face au Nzalang qui joue à domicile. On pourrait avoir une surprise, hein.
Oui, effectivement, donc vous êtes bien de le relever après le Burkina Faso. C'est déjà donc que pour cette équipe de Zélande nationale, hein, parce que c'est une équipe en tout cas qui est très technique, capable donc de créer un surprise à tout moment. C'est vrai que la Tunisie, sur le papier, donc, a plus d'avantages que la formation guinéenne, mais au regard que la Guinée donc, est technique et qu'elle évolue effectivement sur cette grande installation avec le soutien très énorme des supporters de Zélande, il va falloir dire que les Tunisiens vont subir. Et si effectivement les élus du Carthage ne prennent pas véritablement le match, donc alors compte dès les premiers instants de la rencontre, ça va être très difficile.
Merci beaucoup. On rappelle le score dans le groupe D, 0-1-0 pour le Cameroun, 1 pour la Côte d'Ivoire et 1 partout entre le Mali et la Guinée. Pour le moment, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Le Mali et la Guinée qui devront passer par un tirage au sort demain matin. Scénario incroyable pour déterminer qui ira en quart de finale. Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle. Allez, revenons sur les matchs du groupe C. Hier, le groupe de la mort qui vraiment nous a fait battre le cœur. On a failli mourir hier tant le suspense a été à son comble hier dans ce groupe C. Finalement, c'est l'Algérie et le Ghana qui sont qualifiés. Le Ghana qui termine premier. L'Algérie deuxième, un scénario fou, notamment pour les Ghanéens qui étaient menés 1-0 au score par les Sud-Africains. Mais grâce à Boy et à André Ayou, évidemment, les Black Stars ont su l'emporter 2-0. Pour l'Algérie, ça a été beaucoup plus facile. Ils ont tué le suspense dès la 11e minute de jeu. C'est Marez qui avait ouvert le score et Ben Taleb qui, à la 82e minute, avait inscrit le second but de la partie. Et Jules Valentin Ngoué, on a donc les mondialistes hein, qui sont qualifiés pour les quarts de finale, mais des profils différents évidemment entre Algériens et Ghanéens.
Oui, bien sûr, des équipes surtout expérimentées, des équipes qui sont venues à la compétition étant déjà constituées, ayant déjà un vécu et donc qui au fur et à mesure montent en puissance. Donc nous pensons que ce seront des équipes très difficiles à arrêter. Elles ont démontré et avec leur fin de parcours dans la phase de poule et je crois que ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
Merci beaucoup Jules Valentin. Et vous Salif Kaboré, évidemment sur ce passage en force des Ghanéens qui ont été très poussifs, hein, notamment lors du premier match avec l'absence d'Assamoah Gyan et finalement qui réussissent à se qualifier premier de ce groupe contre toute attente finalement.
Oui, tout à fait, contre tout à fait, il faut dire que donc, ça y est déjà
dans le système ghanéen. C'est une équipe donc des Barça qui démarre à chaque fois de façon très timide, mais qui au dernier instant, en tout cas très chaque fois à la surprise. Mais il arrive des moments aussi où ça ne réussit pas. Mais cette fois-ci, on a remarqué que les Barça, en tout cas, ont eu cette baracala donc d'aller faire la différence dans les derniers instants du match. Mais je crois que si les Ghanéens veulent aller très loin dans cette compétition, il va falloir qu'ils prennent les dessins. Mais dès le premier instant du match, hein, parce que vous voyez depuis le début de cette compétition, c'est une équipe ghanéenne qui n'avait véritablement pas convaincu, mais au finish, hein, pour la qualification, bien, les Black Stars avec Ayou, et bien, ils se sont imposés, mais à la dernière minute, c'est très dangereux.
Merci beaucoup Salif. Et Wilfried Bony qui a failli inscrire le second but des Ivoiriens seul face au gardien. Il a finalement tiré sur le gardien camerounais. On va prendre un auditeur qui nous appelle en Afrique du Sud. Bwana Mangela, bonsoir.
Bonsoir.
Alors évidemment, vous êtes un Congolais installé à Johannesburg en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous attendez du derby congolais face au Diable Rouge?
Ce que je vois concernant les Congolais de la RDC et les Diables Rouges, toujours je dois dire merci d'abord à Dieu, puisqu'on a passé difficilement et on n'a pas cet espoir si on va passer, mais Dieu nous a aidés, on a passé par chance. Mais ce que je vois, on va gagner et nous serons toujours qualifiés, toujours.
Eh bien,
la phase de la finale.
Eh bien, merci beaucoup, hein, Bwanangela, de nous avoir appelé depuis Johannesburg. C'est en République démocratique du Congo, évidemment. Vous étiez de la RDC. On va prendre un auditeur, Boubacar, qui nous appelle à Conakry, la capitale guinéenne. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, évidemment, match nul hein, partout pour le moment entre la Guinée et le Mali. Comment vous voyez cette rencontre, évidemment, du Sili National?
Nous allons gagner, Inch'Allah, Inch'Allah, nous allons gagner. En tout cas, Sili, notre... allô?
Oui, on vous écoute, allez-y.
Bon, notre espoir, je n'ai pas confiance à ce bâchement, donc... En tout cas, notre position est dans la deuxième mi-temps comme ça, là. Donc, en tout cas... franchement.
Eh ben merci beaucoup de nous avoir appelé depuis Conakry. On va noter cette information importante. Hein. Ibrahima Traoré, évidemment, le capitaine guinéen qui est sorti sur blessure. Il avait reçu un coup à la cheville lors de la première mi-temps. Il ne s'est jamais vraiment remis de ce coup. Il a été remplacé par Seydou Bassouma. Donc on le rappelle, pour le moment, actuellement, la Guinée et le Mali qui font match nul un partout. Et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire qui domine le Cameroun. Jules Valentin, si on en reste là, pour le moment, évidemment, ça peut évoluer. Mais les Ivoiriens qui reviennent de très très loin.
Oui, comme prévu pour des équipes expérimentées, je l'ai dit tout à l'heure, elles vont en plan, montent en puissance, elles viennent petit à petit, et l'équipe ivoirienne a laissé un peu le côté individuel de son jeu pour se mettre au service du collectif cette fois-ci. Et je crois que c'est pour cela qu'elle a la possession de balle et qu'elle arrive à gérer très bien la rencontre.
Allez, Bouba Gaba, qui est au Mali, bonsoir. Bouba, est-ce que vous nous entendez au Mali, Bouba? Ah, visiblement, Bouba est concentré. Ah, vous... Alors, Bouba, est-ce que vous pensez que les Maliens vont pouvoir faire la différence? Car pour le moment, tout va se jouer au tirage au sort, hein, si le score en reste là.
Oh, non, le score ne peut pas rester là. On va passer tout de suite, Inch'Allah.
Inch'Allah, évidemment. Mais sur ce match, encore, les Maliens qui ont été poussifs, hein, c'est quand même le troisième match où les Maliens, pour le moment, sont accrochés. Est-ce que ça ne vous inquiète pas?
Non.
Voilà. Alors, notre auditeur qui est concentré sur le match, on le voit bien. Salif Kabore, finalement, si le match en reste là pour le moment, on aura un scénario incroyable. Plutôt que de jouer les pénaltys ce soir, on aurait un tirage au sort demain par la CAF. Ce n'est pas arrivé depuis 1988. C'était en Algérie et les deux équipes étaient l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Ça s'était joué au profit de l'Algérie. Mais est-ce que c'est pas incroyable que ce soir, il n'y ait pas un officiel de la CAF qui vienne sur la pelouse pour faire jouer les pénaltys plutôt que de passer par ce tour de passe-passe du tirage au sort?
Partir de la beauté de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et là aussi, donc, ce sont des règlements qui seront appliqués à ce niveau-là. C'est pour vous dire ne voulait pas donc en arriver là. Il fallait véritablement que ces deux équipes fassent la différence au niveau donc de leur groupe pour éviter effectivement de telles insuffisances. Mais on en est là en tout cas pour le moment à ce soir.
Merci beaucoup Salif. Salif, merci beaucoup. Hein. C'était Sporama VOA spécial. Et on va remercier Michel, Joseph, Georges, Léonard, Sagno. Nicolas Pinault était à la présentation. À très vite sur VOA Afrique.